Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus. C'est avec plaisir que nous accueillons pour cette conférence Tous Transforme. Dominique Méda va nous parler si une société post-croissance est-elle souhaitable. C'est une conférence qui se donne dans notre cinquantenaire. Nous fêtons comme ça nos 50 ans en France, la Fondation. Et c'est toujours avec plaisir que nous accueillons la Fondation Maison Sciences de l'Homme et le Collège d'études mondiales, qui est notre partenaire dans ces conférences. Et surtout, Michel Viorca, qui est le fondateur du Collège d'études mondiales. Et vraiment, cette question, la société post-croissance, est centrale aujourd'hui. On parle d'un abaissement. La croissance économique, on ne sait pas si la croissance va reprendre. Est-ce que c'est possible d'une société qui ne croit pas? Est-ce que nous pouvons continuer à avoir une démocratie qui résout ses problèmes toujours à quantité constante? Bon, ça c'est une question vraiment qui est très tranchante pour nous tous et nous espérons beaucoup de l'illumination que Dominique Méda va nous donner ce soir. Et je la salue et je la remercie aussi d'être venue être avec nous. Et je passe la parole à Michel Viorca.
Merci, Jean. Je voudrais d'abord remercier Jean Carassa, avec qui la relation est à la fois institutionnelle, puisque nous co-organisons Fondation Maison des Sciences de l'Homme et Fondation Gulbenkian, nous co-organisons ce cycle, cette série d'événements. Mais la relation, je crois qu'on peut le dire ici, est également intellectuelle et amicale. Ce qui est toujours bien. Il faut toujours, quand on peut, faire marcher ensemble la vie intellectuelle et la vie amicale. Alors, je salue également Sarah Guindani, Gwenaëlle Lip, qui ont... le prénom m'échappe aussi. Pardon. Et Annick, qui ont monté ça, qui ont la responsabilité du Collège d'études mondiales et qui ont monté cette soirée avec nous. Juste un mot sur les institutions. Le Collège d'études mondiales, c'est une institution jeune qui a été créée il y a 4 ou 5 ans avec l'idée qu'il était bon qu'à Paris existe un lieu où des chercheurs du meilleur niveau qui soit, sans préoccupation disciplinaire particulière, sans obsession disciplinaire particulière, construisent autour de leur personnalité intellectuelle une vie scientifique, invitent des post-docs, organisent des ateliers, des séminaires, font des recherches, bref, créent de quoi animer dans leur domaine de compétences des travaux d'un type ou d'un autre. Alors il y a une quinzaine de chaires en fonction, avec des gens qui sont souvent extrêmement connus, des Français, des étrangers. Et parmi les titulaires de chaire, Dominique Méda, qui va s'exprimer dans un instant, et que je suis très heureux de retrouver ce soir. Nous avons aussi d'autres raisons de nous retrouver en ce moment. Alors, le Collège d'études mondiales est une chose. Dominique est par ailleurs professeur à l'Université Paris-Dauphine, ce qui crée aussi des liens avec moi, personnels, puisque j'ai étudié, puis été enseignant dans cette même université. Elle est très connue, d'une part, pour ses travaux sur l'emploi, pour ses travaux sur le travail, et d'autre part, donc, pour ses travaux sur la question de la croissance, tout ceci étant indissociable, me semble-t-il, d'une sensibilité tout à fait vive à tout ce qui est problème d'environnement, de changement climatique, et je dirais ce qu'on peut appeler les questions qui taraudent l'écologie politique aujourd'hui, et pas seulement en France. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, parce que ce qui compte, c'est de l'écouter. Je la salue et nous l'écoutons. Je viendrai ensuite à côté d'elle pour animer le débat. Dominique, c'est à toi.
Merci beaucoup. Bon, un très grand merci à la Fondation de m'accueillir et à Michel et à vous tous qui avez organisé cette séance. Je suis vraiment ravie d'être ici. Alors, j'ai donné un titre un petit peu provocant à cette conférence, hein, « Une société post-croissance est-elle souhaitable ?» Alors, une question provocante, parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand on lit les journaux, hein, qu'on est à la recherche du moindre quart de point de croissance. Les journaux en sont pleins. Hein. On se dispute sur des chiffres après la virgule. On déplore le fait que les taux soient si peu élevés. Enfin, voilà, c'est devenu véritablement le taux de croissance, l'indicateur majeur de notre vie économique, mais je dirais même plus généralement de notre vie, de toute notre vie, de notre vie sociale. C'est l'indicateur majeur sur lequel on juge nos sociétés. Et d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, le système, il y a un système international de comptabilité nationale, qui est la dernière version date de 2008, qui est un énorme pavé de 800 pages, qui explique comment on doit, quelle méthode on doit respecter pour construire précisément un certain nombre d'indicateurs, dont le produit intérieur brut. Dans cette Bible, qui est co-signée par les 5 plus grandes institutions internationales, l'OCDE, la Banque mondiale, la Commission européenne, l'ONU et le FMI, eh bien, cette Bible indique que le produit intérieur brut, donc un des résultats de cette construction, c'est l'indicateur qui nous dit et qui nous permet de comparer les performances des sociétés. C'est l'indicateur qui nous dit si une société réussit et qui nous permet de comparer les performances des sociétés. Donc, une question provocante. On a l'impression dans notre société d'être revenu au temps des Romains. Vous vous souvenez, avec les aruspices qui ouvraient les poulets et qui regardaient les foies pour savoir ce qui allait se passer. Et là, on a vraiment l'impression que et nos économistes et nos journalistes sont vraiment des aruspices, des devins qui essayent de nous dire ce qu'il en sera de la croissance et du taux de croissance. Et vous voyez tout de suite où je veux en venir. C'est qu'on a aussi l'impression d'une substance un peu magique avec cette croissance, vraiment la pierre philosophale, ce qui va nous permettre de réussir, de nous en tirer. Et on a un rapport, me semble-t-il, aussi très religieux à ce taux de croissance. C'est une sorte de veau d'or. Et vous voyez qu'on finit par faire des suppliques. Il y a eu un beau film de Marie-Monique Robin il y a quelques mois, enfin même un peu plus que quelques mois, qui s'appelle « Sacrée croissance », avec ce côté sacré, en effet, de ce chiffre et de cette réalité. Et on a en effet donc bien l'impression que notre société est construite autour de cette religion de la croissance. Alors, je pousse d'un cran en disant qu'en effet, il me semble que nos sociétés sont des sociétés fondées sur la croissance. Je reprends là une expression d'Habermas qui lui écrivait en 1985 que nos sociétés étaient des sociétés fondées sur le travail. Mais il y a un rapport et on y viendra sans doute tout à l'heure. Donc des sociétés fondées sur la croissance, pourquoi ? Eh bien parce que, donc la croissance de quoi ? Bah, la croissance de la production et la croissance des revenus. Pourquoi ce caractère structurant et pourquoi des sociétés fondées sur la croissance ? Eh bien, parce que cette substance magique, cet indicateur magique, eh bien, on va voir qu'il a un lien avec... comment dirais-je ? Il a un lien avec la capacité ou la vocation humaine à mettre le monde en forme, et c'est là-dessus que je m'arrêterai un instant. Un rappel d'abord, donc le taux de croissance, c'est le taux de croissance en volume du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est la somme du PIB marchand, c'est-à-dire la somme des valeurs ajoutées, et du PIB non marchand. D'accord ? Donc c'est ce que nous produisons, le résultat de notre production. Et cette notion de valeur ajoutée me semble extrêmement importante parce que c'est bien la valeur ajoutée par les humains aux données naturelles. D'accord ? Et donc il y a ce que nous utilisons pour fabriquer la production et puis qui va être utilisé dans le circuit de la production. Et il y a la production finale, en quelque sorte. Et ça, c'est d'une certaine manière une sorte de couronnement. C'est la marque humaine sur le monde. C'est la valeur ajoutée par les humains dans le monde. Et c'est là-dessus que nous nous focalisons lorsque nous parlons donc du produit intérieur brut et que nous regardons le taux de croissance du produit intérieur brut. Alors, cette sorte de religion pour la production, je crois qu'elle vient de loin. D'abord, arrêtons-nous un instant sur cet économiste philosophe, Adam Smith, qui en 1776 écrit son grand ouvrage sur la recherche sur les causes de la richesse des nations. Comme beaucoup d'économistes, il s'interroge sur les sources de la richesse des nations, évidemment pour essayer de les faire jaillir de toutes parts. Et son tout premier chapitre, le tout premier chapitre de ce livre, c'est un hymne au travail et à la division du travail, à l'efficacité, à la puissance, à ce qu'il appelle la puissance productive du travail. Et dans ce premier chapitre, avec beaucoup de morceaux qu'on connaît très bien, hein, que connaissent très bien les étudiants en économie, il y a un très beau passage sur la manufacture d'épingles. Il explique pourquoi dans la manufacture d'épingles, eh bien, on va fabriquer, grâce à la division du travail, beaucoup plus d'épingles en très 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 peu de temps que lorsque chacun fabriquait sa petite épingle. Et c'est dès ce premier chapitre que Smith explique que vraiment ce qui va permettre à une société de réussir, peut-être de s'inscrire dans la durée, c'est l'importance de sa production. Et d'ailleurs, il faut tous que nous soyons engagés dans la production, il faut supprimer l'oisiveté. Et dit-il, cette abondance que nous allons réussir à produire, eh bien, peu à peu, elle se répandra jusqu'aux dernières classes du peuple. C'est ce que les économistes appelleront plus tard la théorie du ruissellement. Donc, fabriquons le plus possible, et cette richesse que nous créons, hein, avec le travail qui est le principal facteur de production et qui permet de créer de la richesse, d'ajouter de la valeur au monde, eh bien, cette abondance se répandra jusqu'aux dernières classes du peuple. Et on voit tout de suite aussi dans ce premier chapitre combien cette production et cette création de richesse, elle est importante non seulement pour le confort des individus, qui évidemment est considérablement amélioré, mais c'est aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce terme de valeur ajoutée, c'est aussi un moyen, cette production plus importante, de tenir les individus tous ensemble, de trouver une nouvelle manière une nouvelle forme d'ordre social, un ordre social qui sera très difficile de remettre en cause, parce que le travail est là pour mesurer la contribution de chacun à la production et la rétribution qu'il peut en retirer. Et puis, c'est aussi une marque, cette taille de la production, c'est aussi une manière d'organiser la coopération entre les hommes. Par exemple, Adam Smith prend l'exemple d'une chemise et il s'enthousiasme devant les milliers de personnes qui ont dû participer à la confection de cette chemise. Et finalement, ce qui intéresse, je crois, fondamentalement Smith dans tout ça, c'est que cette production et cette abondance, ce qu'elle permet, ce dont elle est le signe, c'est de la civilisation. Ce que permettent le travail et la production, et donc la valeur ajoutée par l'homme, c'est la civilisation. Et on le voit bien dans la fin de ce premier chapitre dont je vous parle, du livre de Smith, où il compare, en fait, où ce qu'il montre, c'est qu'un simple paysan en Europe a des meubles à peu près identiques à ceux d'un prince d'Europe, dit-il, alors qu'un roi d'Afrique sauvage, nu, donc non civilisé, eh bien lui va vraiment être resté dans sa primitivité. Et donc on oppose d'un côté la société primitive, celle qui n'a pas su s'en sortir grâce au travail et à la production, et d'un autre côté l'abondance qui donne en même temps la civilisation et la coopération. Donc la production comme clé, d'une certaine manière, d'un monde civilisé et démocratique. Alors voilà, j'y vois là une des sources de cette fascination pour la production. Et vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est que donc cette production, elle n'est pas importante seulement pour le confort évident, supplémentaire qu'elle va donner aux personnes, mais aussi pour la marque de civilisation qu'elle représente. Alors après, ça va aller évidemment bien plus vite, parce qu'à l'époque de Smith, on a juste les débuts du processus de croissance. Vous savez que tout ça va véritablement se développer, décoller en quelque sorte, au milieu puis à la fin du 19e siècle, avec là des bouleversements absolument fondamentaux. C'est l'économiste Angus Madison qui a représenté, qui a recalculé en quelque sorte les variations de la croissance, enfin le décollement, puis la manière dont les taux de croissance se développaient sur les 2000 années passées. Et évidemment, il montre comment les choses n'ont absolument pas bougé, quasiment pas bougé jusqu'au 19e siècle, et puis comment tout d'un coup on a cette explosion. Juste un chiffre, hein, entre 1870 et 1913, on va avoir un taux de croissance mondial à peu près de 2%, 2,1%, et puis une explosion donc de 1950 à 1973 avec des taux de presque 5% par an. Donc vous voyez là quelque chose d'absolument gigantesque que l'humanité n'avait jamais connu. Et Madison appellera ça l'âge d'or. L'âge d'or, c'est-à-dire ce moment d'explosion de la croissance. Nous avons notre Madison qui s'appelle Fourastier, hein, Jean Fourastier, qui a parlé des 30 Glorieuses. Et dans ce petit livre, dans son petit livre intitulé « Les 30 Glorieuses », Fourastier nous montre deux villages et nous montre combien ils sont différents. Alors on croit d'abord que c'est un village d'Afrique et puis un village de France. Et en fait, c'est le même village à 30 années d'intervalle. Et il nous montre combien ce village a été radicalement transformé par l'arrivée de la croissance. Et il nous montre également la manière dont ces transformations atteignent de très nombreux volets de la vie, y compris la nourriture. On se nourrit différemment, on s'habille différemment, on réfléchit différemment, on éduque différemment. Voilà pourquoi je crois que encore aujourd'hui, lorsqu'on parle de la croissance, on en parle comme de quelque chose de bienveillant, comme quelque chose qui nous a apporté infiniment de bienfaits. Et je crois que aujourd'hui, ça va de soi que la croissance est assimilable. On peut l'identifier au progrès, à la richesse et à la prospérité. Voilà. C'est-à-dire que la croissance est à la fois la cause de tout cela, la cause de la richesse, la cause de la prospérité, la cause de du progrès, et c'est un petit peu son synonyme. Les statisticiens diraient son proxy. C'est ce qui nous dit, c'est la même chose en quelque sorte. Et l'absence de croissance apparaît au contraire comme une désolation, une raison de d'être vraiment désespéré. Et maintenant, j'en arrive du coup à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire en effet ce fait que la croissance ne revient pas. Ou du moins que dans nos pays, en France particulièrement, puisqu'en 2015 on avait 1,1% de croissance, quand même en Europe ou dans un certain nombre de pays européens, la croissance ne revient pas. Vous avez vu qu'on se désole aussi pour la Chine, qui a des taux de croissance moins importants qu'auparavant. Alors certains disent que la croissance ne reviendra pas. Vous connaissez peut-être les travaux de Robert Gordon, qui a jeté un peu un pavé dans la mare. Donc c'est un économiste qui dit que nous avons déjà vécu au 19e siècle et au début du 20e siècle les principales innovations, et que nous n'en connaîtrons plus jamais d'aussi importantes, et que donc nous devons renoncer à cette croissance. Il parle aussi de vents contraires. Le vent contraire, c'est par exemple le fait que nous n'avons plus de croissance démographique qui pourrait constituer, ou du moins plus suffisamment pour constituer une sorte de marché qui permettrait de continuer à consommer toujours plus. Il dit que nous avons été jusqu'au bout des progrès de la scolarisation, ce qui peut sembler quand même pas tout à fait vrai pour ce qui est d'un certain nombre de pays, qu'il y a de nombreuses inégalités, que nous avons un endettement croissant, et lui nous dit par exemple que finalement, avec tout ça, on n'aura plus bientôt que des taux de 0,2% de croissance par an au niveau mondial. Alors, il est très minoritaire et il est assez isolé dans sa profession. C'est-à-dire que la très grande majorité des économistes croient au contraire, alors non seulement que la croissance est une excellente chose, mais que la croissance va revenir et qu'il faut mettre tous les moyens de notre côté pour qu'elle revienne. Peut-être avez-vous lu ces dernières années des textes. Alors il y a eu un recueil de textes d'économistes très important en 2014 qui s'appelait « La stagnation séculaire » avec des économistes très angoissés à l'idée que la croissance ne pourrait pas revenir et qui mettent tous leurs espoirs aujourd'hui sur la transition technologique, sur la révolution technologique et qui pensent que cette révolution technologique est en train de constituer la plus grande innovation au contraire qu'on ait jamais connue et que cela va ramener la croissance. Donc Gordon reste quelqu'un d'assez isolé. Mais cette croissance, dont on ne sait pas si elle reviendra ou pas, il me semble que la première question à se poser à son propos, c'est de savoir si ce retour tant désiré est ou non souhaitable. Le titre de la conférence. Est-ce que c'est souhaitable que la croissance revienne et revienne au niveau où on l'a connu, c'est-à-dire les 5% que l'on a connus pendant les 30 glorieuses ou un petit peu après les 2 ou 3% qu'on a encore réussi à avoir il y a une dizaine d'années. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, la caractéristique de notre époque, c'est que nous prenons conscience des ambivalences de la croissance. C'est-à-dire, nous ne sommes plus prêts à croire qu'il n'y aurait que des bienfaits dans la croissance, mais nous commençons à comprendre, finalement, que la croissance amène avec elle, et a amené aussi avec elle, peut-être également des maux. C'est quelque chose dont les années 70 étaient tout à fait persuadées. Et quand on relit cette époque, c'est absolument sidérant de voir à quel point la critique de la croissance et la remise en cause de la croissance étaient profondes, bien plus profondes qu'aujourd'hui, et bien plus sûres d'elles-mêmes qu'aujourd'hui. Alors, très nombreux ouvrages de cette époque. Évidemment, le plus connu, l'ouvrage des Meadows, les limites de la croissance, publié en 72, et qui est un texte très intéressant parce que c'était un texte qui attirait l'attention sur les limites physiques auxquelles la croissance allait se heurter. Et donc, ils avaient fait tourner un modèle. Ils ont été énormément critiqués par les économistes, par exemple par Nordhaus, notamment parce que, précisément, ils avaient parlé en langage physique et pas en langage de prix. J'y reviendrai. Mais je pense aussi, c'est un texte que Jean Gadret a retrouvé, et Jean Gadret, c'est un économiste français qui travaille aussi sur ces mêmes sujets, hein. Il a retrouvé un très intéressant échange qui s'était passé au club du Nouvel Observateur en 1972, et où étaient présents André Gortz, Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT de l'époque, mais aussi le président de la Commission européenne de l'époque, et puis encore plusieurs autres personnes. Et la discussion était consacrée à la question de la croissance. Et alors les propos tenus étaient tout à fait sidérants, puisque par exemple Edmond Maire disait « Nous ne voulons pas de cette croissance ». Ces 5% de croissance n'ont absolument aucun sens, disait-il. Alors, il faut vous dire qu'il y avait une différence avec le calcul qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, avant 1976, on ne tenait pas compte du PIB non marchand. Il n'y avait que le PIB marchand. Et évidemment, ça explique en partie, mais en partie seulement, le fait qu'ils disent bah, « Écoutez, c'est ridicule, puisque vous ne tenez absolument pas compte de tout ce que produisent les administrations et les services publics. Pas de PIB non marchand, pas d'éducation, pas de santé, etc. » Mais néanmoins, sa critique continue à être valable, puisque sa principale critique consistait à dire qu'on ne tenait pas compte de la qualité de vie, des conditions de travail et toute une série de choses dans ce simple chiffre de la croissance. Les travaux de Jouvenel aussi, tout à fait passionnants, extrêmement précurseurs, qui, dans les années 50 et 60, fait partie des missions de productivité qui sont envoyées aux États-Unis, mais critique déjà les gains de productivité et l'obsession pour les gains de productivité en disant que ces gains de productivité, bien sûr, s'ils rendent la production plus efficace, et s'ils sont un progrès pour le consommateur, parce que ça fait baisser les prix, donc le consommateur peut acheter des choses moins chères ou peut acheter plus de choses, ce qui intéresse les économistes, eh bien, lui dit c'est un progrès pour le consommateur, mais c'est un regret Alors, il n'écrit pas ET, il écrit ES, donc un retour en arrière, c'est un regret pour le producteur. C'est-à-dire déjà, enfin, cette époque a ceci de caractéristique, ces années 70, qu'on tient ensemble les différentes dimensions, et notamment les conséquences sur le travail humain, sur la cohésion sociale, sur la qualité de vie de tout ce qui est en train de se passer. Et Jouvenel dit une autre chose extrêmement intéressante. Alors d'abord, il parle de patrimoine, et il dit que à chaque génération doit enrichir le patrimoine qui lui est légué, mais ce patrimoine, il est fait aussi de choses physiques, de qualité, de conditions de vie. Et il dit que si un homme du XVIIIe siècle avait imaginé ce croît de puissance, cette augmentation de puissance et de richesse, il n'aurait pas du tout imaginé que les hommes futurs en feraient ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire, lui dit... cet homme du XVIIIe siècle, s'il avait su toute cette puissance dont on allait disposer, eh bien, il aurait pensé qu'on aurait transformé les villes, qu'on aurait fait de beaux bâtiments à usage familial et dans lesquels il serait très agréable d'habiter, et on aurait des hommes et des femmes beaucoup plus éduqués, civilisés. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est que cet homme serait tout à fait épouvanté de voir que finalement... on a utilisé une partie de cette puissance à inventer des produits nouveaux, matériels, qui n'ont finalement pas amélioré les conditions de vie. Alors tout ça a été balayé complètement à la fin des années 70, bien sûr par la crise pétrolière, les difficultés économiques, le début de la montée du chômage et les critiques farouches, féroces des économistes qui ont reproché notamment, je vous disais, aux Meadows et à tous ces modèles de ne pas prendre en considération les prix et donc qui ont dit qu'il fallait jeter ces modèles à la poubelle et qu'on aurait toujours de la croissance et que... j'y reviendrai tout à l'heure, que cette croissance ne posait aucun problème, qu'il n'y avait pas de limite physique. Il me semble, en revanche, qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus conscience de ces limites et que les rapports qui nous le montrent s'accumulent. Vous connaissez ceux du GIEC, mais il y a eu deux articles très importants dans les quelques dernières années. Un article de Rockström et ses collègues en 2009 dans la fameuse revue Nature qui accueille ce genre de travaux. Qui était consacré aux limites planétaires et qui montrait qu'il y avait un certain nombre de seuils critiques qu'on ne devait pas dépasser et qu'il y en avait déjà trois qui étaient dépassés. Donc que nous étions physiquement en train de, en quelque sorte, de scier la branche sur laquelle nous étions assis. Ces seuils étaient dépassés notamment pour ce qui est du changement climatique et de la biodiversité. Et puis il y a eu un deuxième article en 2012, là encore d'une grande équipe de plusieurs chercheurs de sciences biologiques et climatologiques, qui indiquait que nous étions tout simplement en train de forcer les transitions, que l'humanité était en train de forcer les transitions, de dépasser les seuils critiques, et que, eh bien, si nous continuions ainsi, les choses allaient très mal se terminer. Finalement, ce que nous disent tous ces textes, c'est que le développement qui est le nôtre actuellement n'est pas... soutenable est devenu totalement insoutenable. Alors, certains proposent, pour nier cette insoutenabilité, certains proposent de garder en quelque sorte le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire de conserver la croissance, mais en enlevant les dégradations environnementales que peut provoquer la croissance. Donc on avait une croissance sale et brune, on pourrait l'échanger contre une croissance propre et verte, c'est-à-dire une croissance qui ne ferait pas de dégâts. Et c'est très intéressant évidemment de voir qui soutient cela et pourquoi nous soutenons cela. Hein. C'est une croyance extrêmement forte dans la capacité du progrès technique et technologique à faire en sorte que, en effet, la croissance d'abord ne produise plus d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est l'idée d'une économie décarbonée, et provoque plus les dégradations, que ce soit l'acidification des océans, la disparition de la biodiversité, qu'elle ne provoque plus tous ces dégâts et toutes ces dégradations. Alors, ce que répondent ceux qui ne croient pas du tout à cette possibilité d'une croissance verte, c'est qu'il faudrait pour cela un saut technologique tel qu'on n'en voit pas le début, finalement. Que sans doute cela est possible, mais au prix d'un saut technologique dont nous n'avons même pas encore les premiers linéaments ou les premiers signes, notamment en matière d'efficacité énergétique. Et que donc, si nous voulons, d'une certaine manière, prendre nos précautions, eh bien, il faut faire comme si, en effet, nous n'allions pas parvenir à avoir une croissance propre, une croissance verte, et qu'il fallait donc s'y résoudre. Et il me semble que derrière cette idée que le progrès technologique va nous sauver, il y a aussi cette croyance tout à fait normale, hein, mais extrêmement forte, hein, la croyance au génie humain et au fait que finalement les humains s'en sont toujours très bien sortis et que ça va continuer ainsi parce qu'ils sont particulièrement inventifs, parce qu'ils sont particulièrement rusés et qu'ils ont toujours dominé la nature et qu'ils continueront à pouvoir ruser avec la nature. Et ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est que d'une certaine manière, les économistes sont les pires en cela. Et quand on regarde un peu ce que la théorie économique des années 80-90, par exemple de Solow et Hotling, propose, la manière dont ils représentent le capital naturel et les évolutions de notre capital naturel, je trouve qu'on voit très, très bien ça, parce que finalement, leur raisonnement consiste à dire que lorsqu'une ressource devient plus rare, eh bien son prix va tout simplement augmenter, que comme son prix va augmenter, à la fois on va pouvoir en tirer une rente qui va pouvoir être placée sur une autre ressource que l'on va donc pouvoir utiliser. Donc on n'utilisera plus la ressource qui devenait rare et on utilisera une autre ressource. Mais vous voyez que derrière ça, il y a l'idée qu'on trouvera toujours de nouvelles ressources capables de remplacer celles qui deviennent plus rares. Donc c'est cette idée que tout est substituable, que toutes les ressources sont substituables, qu'on aura toujours un substitut à tout. Et finalement, il me semble, c'est l'hypothèse que je formule, c'est que les économistes, notamment les économistes standards, sont fondamentalement intéressés par les doses de bien-être que nous recevons. Hein, leur obsession, c'est de savoir si on va pouvoir conserver pour les générations futures les mêmes doses de bien-être. Et d'une certaine manière, que ces doses de bien-être ou de satisfaction nous soient données par le patrimoine naturel dont nous disposons, par les forêts, par les paysages, par l'eau, par, vous voyez, avec tous les sentiments esthétiques, sensoriels que l'on peut avoir, et bien, que ça nous soit donné, ces doses de bien-être, par le capital naturel ou par autre chose, par exemple par un capital artificiel que nous aurions entièrement construit, bien, eux, ça leur est totalement indifférent. Ce qui compte, c'est les doses de bien-être que reçoivent les humains. Et ce qu'ils calculent, c'est est-ce que les doses de bien-être des générations futures seront les mêmes que celles des générations d'aujourd'hui. Et si ça, ça va, alors tout va bien. Mais, et donc, ils raisonnent, vous voyez, en mettant le prix au centre de tout et en faisant comme si tout avait un substitut, une possibilité d'être remplacé. Et il me semble que derrière ça, il y a vraiment une énorme... presque un péché, un énorme péché, péché d'orgueil. Alors, si vraiment nous pensons que le capital naturel, du moins le patrimoine naturel, nous importe, comment se fait-il que nous ne réagissions pas? Comment se fait-il que nous n'allions pas plus vite et que nous ne remettions pas en cause cette croissance, notre croyance dans la croissance et dans les bienfaits de la croissance? Je vous ai dit qu'il me semblait qu'on était des sociétés fondées sur la croissance depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, tous nos dispositifs sociaux dépendent de la croissance. Avec chaque année, on fait des prévisions qui sont dans les lois de finances. Donc, c'est extrêmement important. Mais tous nos cadres d'interprétation de la société, de lecture de la société, dépendent aussi de cette croissance. C'est-à-dire que cette représentation de la croissance, elle forme pour nous une sorte d'épistémé, c'est-à-dire c'est le cadre cognitif, interprétatif dans lequel nous vivons et avec lequel nous lisons le monde. Et évidemment, là je veux parler un instant du produit intérieur brut et de la comptabilité nationale. Cette c'est pas seulement la croyance dans la production qui importe, c'est tout l'appareillage que nous avons inventé au XXe siècle pour mettre cela dans des grilles, et je crois que ces grilles, ces catégories de lecture, ces catégories analytiques sont devenues nos catégories de lecture, qu'aujourd'hui nous lisons le monde à l'aide de la comptabilité nationale. Alors ça peut vous paraître bizarre quoi, de dire ça, parce que finalement la comptabilité nationale, c'est quelque chose dont sont spécialistes en effet à l'INSEE les comptables nationaux qui font des balances et qui font des grands tableaux. Mais vous voyez, en construisant la comptabilité nationale, on a véritablement construit, c'est une convention, donc on s'est mis d'accord où on a imposé une grille de lecture, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir comment elle s'est construite. Hein. Vous savez que l'inventeur de la première comptabilité nationale, c'est Kuznet, un Américain qui, en 1932, reçoit une commande du Sénat américain pour calculer le revenu, et notamment savoir s'il y a eu une grosse perte de revenus ou pas après la Grande Dépression aux États-Unis. Alors, c'est très intéressant de le voir à l'œuvre, parce qu'il commence à regarder, à estimer ce revenu national, et évidemment, il faut savoir ce qu'on rentre, ce que c'est que le revenu national. Il faut prendre un périmètre, donc il faut faire des choix. Et donc, on voit Kuznet qui dit, ça je le prends, ça je le prends pas, ça je le mets, ça je le mets pas, et donc qui opère en quelque sorte une découpe sur la réalité pour dire, lui, ce qu'il appelle revenu national, ce qui compose le revenu national ou pas. Et on fera exactement la même chose après, quand on va construire vraiment et qu'on va stabiliser les comptabilités nationales dans les années 60 et qu'on va les standardiser, que ça va devenir des instruments véritablement universels. Il y a des choses qui y sont et il y a des choses qui n'y sont pas. Et c'est une convention qui nous donne une image extrêmement réductrice de la réalité. Nous pensons que ça nous donne une bonne image de la richesse, mais ça nous donne une image excessivement réductrice de ce que c'est que la richesse d'une société. Pourquoi ? Si je prends donc le produit intérieur brut dont je vous parlais tout à l'heure, il présente d'énormes limites. Par exemple, la première limite, c'est qu'il ne compte, il n'enregistre que les activités qui sont finalement le travail professionnel, le travail rémunéré. Aucune autre activité ni figure. C'est-à-dire que les activités bénévoles, familiales, amicales, politiques, lorsqu'elles sont purement citoyennes, pas rémunérées, les activités de loisirs, donc une partie extrêmement importante de la vie sociale et de ce qui fait aussi l'importance de la vie sociale et ce qui permet aussi évidemment à la société de se reproduire, hein, n'est pas enregistrée par notre comptabilité nationale. Notre comptabilité nationale le compte pour zéro. Non seulement elle le compte pour zéro, mais lorsque ces activités disparaissent pour être transformées en activités marchandes, eh bien, on ne voit même pas qu'elles disparaissent. Ça nous fait une augmentation du PIB, mais on ne voit pas qu'elles disparaissent, ces activités-là, pourtant très importantes pour le reste de la société. Deuxième grande limite du produit intérieur brut, il ne tient pas compte des inégalités, soit des inégalités de consommation, soit des inégalités dans la production. Le chômage d'un côté, les fortes inégalités de consommation de l'autre. Et puis, la troisième énorme, bien sûr, limite, c'est que cette comptabilité, elle n'est pas patrimoniale, c'est-à-dire que vous avez des augmentations de valeur ajoutée. Alors, ça peut être moins important certaines années que d'autres. L'augmentation peut être moins importante. Mais vous ne regardez pas le fond sur lequel vous puisez, que vous abîmez, ou pas d'ailleurs, ou vous améliorez, pour fabriquer cette valeur ajoutée. Ce monde que vous mettez en forme pour votre usage, vous ne regardez pas physiquement, biologiquement, comment il évolue. Donc, on ne regarde ni les évolutions du patrimoine naturel, ni les évolutions de la cohésion sociale, ou du travail humain, ou de la civilité, ou de l'aptitude à la paix, ou de tas de choses comme ça. Mais on regarde que les augmentations du produit intérieur brut. Donc, vous voyez d'énormes limites. Et donc, par construction, on ne voit pas les dégradations. Donc, nous sommes dotés d'une grille de lecture du monde où nous savons qu'il faut avoir un gros PIB par habitant. Mais cette grille de lecture que nous utilisons tous les jours, elle est fausse, elle est radicalement faussée. Elle se focalise sur la valeur ajoutée par les humains sans jamais regarder ce qu'il advient des patrimoines que les humains modifient. Alors, il y a sans doute des raisons beaucoup plus profondes à tout ça, notamment des raisons anthropologiques. Hein. Moi, j'aime beaucoup le fameux texte de l'historien Lynn White, qui écrit en 1967, qui s'interroge sur les racines humaines de notre crise écologique, et qui dit qu'en gros, il faut remonter à la Genèse pour voir la source de tout cela. Pourquoi à la Genèse ? Parce que dans la Genèse, eh bien, Dieu demande à Adam de dominer et d'assujettir la nature. L'humain est transcendant à la nature. Il est certes une créature, mais il n'est pas vraiment partie de la nature. Il est fait à l'image de Dieu. Il doit dominer la nature. Il doit l'organiser pour lui, d'une certaine manière, la dominer. Et Lynn White nous dit que c'est de là que vient tout le problème. Et si l'homme est l'animal qui a souillé son habitat avec le plus de rapidité, c'est parce qu'il a pris à la lettre cette idée que sa vocation, c'était de mettre le monde en forme pour son propre usage, en quelque sorte. Et puis ensuite, on a eu toute la modernité qui s'est installée là-dessus. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant ? Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous sommes persuadés que notre développement est insoutenable et que nous avons une mauvaise grille de lecture ? Il me semble qu'il faut faire trois, que nous pourrions faire trois choses. Premièrement, nous inspirer de ce que raconte quelqu'un, un philosophe comme Hans Jonas ou un écologue comme Aldo Leopold, qui nous disent que nous devons maintenant avoir une relation radicalement différente avec la nature. Non plus un rapport de propriété ou d'exploitation, mais un rapport de respect. Aldo Leopold parle d'amour, hein, d'amour pour la terre. Et en tout cas, un rapport où il est clair que l'humain est inscrit dans une autre réalité, dans une nature qui a ses propres évolutions et ses propres vulnérabilités. Donc nous devons sans doute sortir d'un rapport et d'une vision purement anthropocentrique. Et je pense que si on est d'accord là-dessus, eh bien, il faudra en tirer des conséquences, ça sera ma conclusion, sur les disciplines, sur les sciences qui s'intéressent aux humains et aux rapports entre humains et nature. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Il me semble qu'il faut changer nos indicateurs. Changer d'indicateur. Alors, vous vous souvenez peut-être que c'était une mission que Nicolas Sarkozy avait donnée en 2008 à la commission dite Stiglitz, enfin à deux prix Nobel, Joseph Stiglitz et Amartya Sen, aidés par Jean-Paul Fitoussi, qui avait réuni une grande commission constituée presque uniquement d'économistes. Et il avait demandé à cette commission de mettre de proposer d'autres indicateurs pour mesurer la performance économique et le progrès social des sociétés. C'était une très bonne idée. On s'est toujours demandé, nous qui travaillons sur ces sujets, pourquoi Nicolas Sarkozy avait eu cette idée. Et franchement, on n'a jamais compris pourquoi, ni d'où ça venait. Alors, qu'est-ce qui est sorti de cette commission ? Deux choses. Premièrement, la reconnaissance que le PIB a d'énormes limites. Et la reconnaissance surtout que le PIB ne joue pas le rôle d'alerte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sonnette qui se met à s'agiter lorsqu'on dépasse des seuils critiques parce que cet indicateur n'est pas fait pour ça. Cet indicateur nous montre la progression de notre activité économique, mais il ne nous montre pas, par exemple, le moment où nous serions arrivés absolument au bout de ce qu'on peut faire physiquement à notre planète et au fait que la planète est devenue inhabitable. Ça, le PIB ne nous le dira jamais. Donc, on pourrait avoir un très gros taux de croissance du PIB et un patrimoine naturel absolument dévasté, une cohésion sociale également radicalement détruite, mais le PIB pourrait ne pas en être affecté. Mais le problème, c'est alors il y a eu beaucoup de batailles entre les économistes qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des indicateurs alternatifs, alors qui ont été en chercher plusieurs, qui en ont proposé un certain nombre, mais aucun n'a trouvé grâce à leurs yeux. Et donc, ce qu'ils ont proposé, c'est cette idée qu'il fallait essayer d'en trouver d'autres, à la fois pour mesurer la qualité de la vie et la soutenabilité de nouveaux indicateurs de bien-être. Alors, il y a eu, depuis une dizaine d'années, une floraison d'indicateurs faits par l'OCDE, par la Banque mondiale, et, à mon avis, qui ne sont pas du tout à regarder comme des pures prouesses techniques, mais qu'il faut absolument regarder précisément comme de nouvelles représentations du monde. Et donc, je crois que la bataille qui est en train de se passer autour des indicateurs, c'est une bataille autour des représentations dominantes du monde. Donc, on est en train de se disputer pour pour avoir la grille de lecture qui nous permettra, d'une part, d'avoir une meilleure lecture. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir une lecture où on voit les dégâts et les dégradations en même temps que les améliorations. Mais voilà, je crois que c'est absolument essentiel de voir cette bataille. Par exemple, à un moment, la commission Stiglitz avait proposé de choisir un indicateur qui s'appelle l'épargne nette ajustée. Je vous raconte les choses très très vite. Il s'agissait de mettre le capital naturel évalué monétairement, le capital humain évalué monétairement et le capital économique évalué monétairement, de tout secouer et de voir d'une année sur l'autre comment ça évoluait. Et vous voyez qu'il y a deux limites énormes à cet indicateur. C'est que, d'une part, on pense... D'une part, tout est évalué monétairement. Or, comment évaluer le patrimoine naturel monétairement? Et puis, deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la thèse de la soutenabilité faible. C'est-à-dire qu'on considère qu'un progrès en termes de capital humain, c'est-à-dire si nous sommes toujours plus intelligents, peut compenser une dégradation du patrimoine naturel, c'est-à-dire une destruction physique de notre patrimoine naturel. Et vous voyez, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur cette substituabilité, c'est-à-dire cette idée que finalement, on est tellement intelligent qu'on va pouvoir reconstruire complètement un capital artificiel. Il y avait un joli livre de Dominique Bourg qui racontait combien, par exemple, c'était le souhait d'un Bacon ou d'un Descartes, cette idée que l'homme était suffisamment intelligent pour reconstruire finalement le jardin d'Éden, hein, et pour reconstruire une nouvelle réalité. Alors, avoir un nouveau rapport éthique avec la nature, changer d'indicateur, et puis, je crois, troisième chose, s'engager radicalement dans la reconversion écologique, dans moi ce que j'appelle la reconversion écologique, et dans des sociétés post-croissance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société post-croissance? C'est une société qui a abandonné la référence centrale à la croissance. Ça n'est pas une société qui souhaite la décroissance, parce qu'une société qui souhaite la décroissance, elle reste dans le même, vous voyez, elle reste avec le même indicateur. Simplement, au lieu que l'indicateur croisse, elle veut qu'il décroisse. Non, moi, ce que je propose, on est plusieurs, hein, à proposer ça, avec ce terme de post-croissance, c'est une rupture avec la priorité et l'obsession de la croissance, c'est-à-dire l'obsession du produit intérieur brut. C'est l'idée que, oui, il faut satisfaire les besoins humains, absolument, et il faut continuer à produire, évidemment, mais il faut éviter le détour improductif par le taux de croissance. On n'a pas besoin d'abord d'augmenter le taux de croissance et ensuite de satisfaire les besoins humains. Essayons tout simplement d'abord de satisfaire les besoins humains sous un certain nombre de contraintes. Hein. Alors, quelles contraintes? Ces contraintes du respect du patrimoine naturel et de la cohésion sociale. Il me semble que ce sont les deux grandes réalités qui ont de l'importance pour nous, qui en quelque sorte nous permettent, sont les conditions de notre reproduction, de l'inscription de nos sociétés dans la durée, un patrimoine naturel qui nous permet de continuer à vivre, hein, c'est l'impératif d'Ancionas, agit de telle sorte que les effets de tes actions soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre, et puis la cohésion sociale. Donc, et c'est pour ça qu'il me semble que se doter de nouveaux indicateurs, c'est pas très compliqué. Il faut deux gros indicateurs qui nous diraient des choses là-dessus. Alors, la reconversion écologique et la société post-croissance, donc une société qui ne met plus au centre de son obsession la croissance, qui vise autre chose que la croissance, et qui fait en sorte d'encadrer la production dans des normes, dans de nouvelles normes éthiques, qui acceptent d'encadrer la production dans des normes éthiques. Ces normes éthiques, elles prennent la forme de normes sociales et environnementales, c'est-à-dire je ne produis que sous respect, sous la contrainte de normes sociales et environnementales qui vont me permettre de respecter mon patrimoine naturel et ma cohésion sociale. Alors, vous savez évidemment toutes ces questions, la reconversion écologique, la post-croissance, ça fait extrêmement peur, parce qu'on se dit on va abandonner la croissance, et l'abandon de la croissance, c'est le chômage, l'absence d'emploi et la fin de l'augmentation des revenus. Donc si on lâche la croissance, alors on lâche tout. On lâche le progrès, on lâche l'emploi, on lâche les revenus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi, je parle de reconversion écologique, c'est-à-dire de rebâtir complètement nos systèmes, de rebâtir, par exemple, notre système énergétique, parce qu'on ne peut plus, on le sait très bien, on ne peut plus continuer à utiliser l'énergie actuelle. Donc, rebâtir notre système énergétique et même rebâtir tout notre système productif, produire radicalement autrement pour rester sous les limites qui ont été avalisées par la COP21 en ce qui concerne la température. Et donc, voilà, enserrer notre production dans des normes sociales et environnementales. Alors, est-ce qu'on risque en effet des choses désagréable en matière d'emploi? Est-ce qu'on risque d'avoir une explosion du chômage ou pas? On dispose d'un certain nombre d'études qui ont montré que cette reconversion écologique, si on la fait bien, ben on va devoir fermer des secteurs et, en revanche, embaucher des gens dans d'autres secteurs. Des secteurs qui vont grossir, des secteurs qui vont diminuer. Les études dont on dispose, on a des études françaises, deux études françaises qui datent de 2013, qui nous disent que normalement, ça va créer des emplois. On a aussi des études, par exemple, de l'OIT ou des études faites au niveau européen qui nous disent aussi que ça va créer des emplois. Mais ça ne se fera pas automatiquement. C'est-à-dire, il va falloir vraiment un très grand volontarisme politique pour éviter que ça se fasse absolument n'importe comment. Il va falloir organiser cette reconversion écologique et notamment mettre en place des mécanismes de sécurisation, vous savez que ce mot est très à la mode aujourd'hui, de sécurisation extrêmement puissant. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les reconversions qu'on a faites, toutes les restructurations qu'on a faites, on pense à la sidérurgie notamment, elles se sont quand même pas très bien faites. C'est-à-dire que le plus souvent, ça a consisté à mettre les gens les plus âgés de côté, à les mettre en pré-retraite ou à faire un passage très long par la case chômage. Donc cette fois-ci, le défi énorme qui nous est posé, c'est de réussir cette reconversion écologique, à mon avis, au moins à l'échelle européenne, sans faire de casse, et donc vraiment en l'organisant de manière extrêmement, extrêmement précise, extrêmement volontaire. Il me semble que cette reconversion écologique, en gros, progresser sur la résolution de la question écologique, ce n'est pas contradictoire avec la question sociale, contrairement à ce qu'on pourrait craindre, mais c'est même une opportunité pour résoudre la question sociale. J'appelle question sociale la question du chômage et la question très importante du malaise actuel au travail. Je crois qu'on a un double défi aujourd'hui, c'est les taux de chômage épouvantables et le malaise au travail. Eh bien, moi, il me semble que si nous sommes intelligents, nous pouvons mettre cette reconversion écologique au service, d'une certaine manière, de la résolution de la question sociale et faire donc de cette reconversion écologique une formidable opportunité. Mais alors, ça ne se fera évidemment pas tout seul. Ça ne se fera pas tout seul et ça se fera, me semble-t-il, à l'aide d'un très grand volontarisme. Et j'aime beaucoup repenser au rapport qu'a produit Beveridge en 1944. Beveridge qui avait déjà produit en 1942 un rapport très important sur la sécurité sociale, écrit en 1944 un rapport qui s'appelle « Le plein emploi dans une société libre ». Il dit que le plein emploi, c'est le fondement absolu de la démocratie. On ne peut pas avoir de démocratie si on n'a pas de plein emploi. Et donc, il va falloir tout faire pour développer le plein emploi, pour conserver le plein emploi. Alors, il est keynésien, hein, donc il dit qu'il faut faire beaucoup de dépenses. Ici, toute une série de conditions. Il faut injecter beaucoup d'argent dans l'économie. Mais après, il y a beaucoup d'autres conditions. Il faut réglementer la localisation des entreprises, réglementer la manière dont les chômeurs recherchent du travail, et il faut surtout, dit-il, réglementer le commerce mondial et le commerce bilatéral. Et on ne devra commercer, dit-il, qu'avec des pays éthiques, c'est-à-dire avec des pays qui, eux aussi, donnent la priorité au plein emploi et qui, eux aussi, respectent un certain nombre de normes. Et ça me semble évidemment extrêmement, extrêmement important. Et Beveridge était un libéral, mais je pense que sa vision des choses, hein, le fait que l'État a à intervenir dans tout cela, qu'il faut coordonner, qu'il faut planifier, eh bien je pense que nous devrions nous en inspirer parce que, bon, autant on parle de guerre contre le terrorisme, moi il me semble que nous devrions nous mobiliser comme en temps de guerre pour essayer d'éviter cette menace écologique qui plane quand même au-dessus de nous. Alors j'ai parlé d'emploi, mais je pense aussi qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire je pense que si elle était bien faite, cette reconversion écologique, elle pourrait aussi nous permettre de changer le travail. Et là, je reprends une idée de Gadret qui me semble très, très intéressante, hein, et qui fait le lien avec ce que je vous ai raconté de Jouvenel tout à l'heure sur les gains de productivité. Gadret dit « arrêtons de faire des gains de productivité ». Alors, vous savez que pour un économiste, c'est épouvantable de dire ça, parce que les économistes, ils pensent que le gain de productivité, c'est le sel de la terre, c'est vraiment le cœur de tout. Et Forestier le dit très bien, ça. Les gains de productivité, c'est le cœur de tout. Gadret dit « arrêtons de faire des gains de productivité, parce qu'on est en train de détruire le travail humain. Essayons maintenant de faire des gains de qualité et de durabilité. » Et ça, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué ? Parce que c'est très dur à mesurer. Si je donnais une image, c'est souvent celle qu'il emploie, hein, c'est celle de la fraise. C'est-à-dire, on a le choix entre d'un côté une fraise qui n'a aucun goût, qui a été transportée par avion, qui a été cultivée dans des conditions sociales très, très mauvaises, versus une fraise locale faite sans pesticides, sans transport. Alors évidemment, cette seconde fraise, elle est beaucoup plus chère. Mais, dit Gadret, le problème, c'est qu'on voit la différence de coût, mais on ne voit pas tout le reste. On ne voit pas le transport qui a bousillé l'environnement, on ne voit pas les conditions sociales qui ont abîmé le travail humain, etc. Donc, il s'agit de se doter d'instruments de mesure qui vont nous permettre, là encore, de mettre ça en évidence. Ces nouvelles grilles de lecture, ces nouveaux indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure, je pense qu'il faut à la fois que ça soit des nouveaux indicateurs macro, donc de nouveaux indicateurs qui guident nos actions macro, mais aussi micro, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, un nouveau type de comptabilité. Alors, il y a quelques personnes qui ont proposé ce type de comptabilité, un nouveau type de comptabilité qui mette en évidence la manière dont les entreprises abîment le patrimoine naturel et détériorent ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appellent le capital social, mais la cohésion sociale de leurs travailleurs. Donc voilà pourquoi il me semble qu'on peut même avoir un triple dividende à la reconversion écologique, un premier dividende écologique, un deuxième sur l'emploi. J'ai pas parlé de la réduction du temps de travail, peut-être on parlera pendant le débat, mais il me semble que c'est aussi une piste qu'il faut absolument ouvrir et travailler. Et puis un troisième dividende sur la qualité du travail. Et évidemment, ce qu'il faudrait qu'on parvienne à faire, c'est mettre en place de nouvelles organisations du travail qui mettent au centre la qualité des produits et la qualité du travail. C'est très compliqué. C'est pas parce que vous faites des emplois verts que vous faites des emplois de qualité. Mais essayer de tenir ensemble la qualité du produit et la qualité du travail, ça pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant. Et il me semble que on ne peut le faire que si on change la nature de nos entreprises. C'est-à-dire que si on rend la structure même de nos entreprises plus démocratique, en réintégrant les salariés et ce qu'on appelle les parties prenantes, mais aussi les consommateurs dans le processus décisionnel des entreprises. Alors, je vais finir parce que je crois que j'ai parlé un tout petit peu trop longtemps. Quelles sont les conditions de réalisation de tout ça ? Parce que vous allez me dire, c'est très joli, mais ça n'existera jamais. On n'y arrivera pas. Coordination, plein emploi, tout ça est trop éloigné. Oui, il y a un certain nombre de conditions. Il me semble que une des premières, c'est l'édiction et l'organisation du respect de ces normes sociales et environnementales. Si on n'a pas des normes sociales et environnementales internationales, à la limite à l'échelle européenne, mais internationale, on ne pourra pas travailler, on ne pourra pas faire ça. Ça veut dire qu'il faut des institutions spécialisées dans le respect de ces normes et dans l'édiction de ces normes. Alors, on a déjà une première organisation, bien sûr, qui est l'Organisation internationale du travail pour les normes sociales, mais vous savez qu'en ce moment, c'est difficile, c'est une institution tripartite et que tout le monde n'est pas d'accord. Et certains disent que, c'est Bernard Thibault qui dit ça, qu'aujourd'hui, si elle n'existait pas, on ne parviendrait pas à mettre en place une organisation internationale du travail, tellement les rapports de force sont devenus au détriment des travailleurs aujourd'hui. Donc, une organisation internationale du travail à qui il faudrait donner des pouvoirs décuplés, des pouvoirs au moins aussi grands que ceux de l'Organisation mondiale du commerce, puisque vous savez que l'Organisation mondiale du commerce, elle a un organe de règlement des différends, ce que n'a pas l'Organisation internationale du travail. Puis, il faudrait bien sûr aussi une organisation mondiale de l'environnement, qui ferait la même chose pour les normes environnementales. Et finalement, ces deux organismes éviteraient le dumping, hein, le dumping social et environnemental. Il me semble qu'il faut également donc une certaine planification telle que celle qui était proposée par Beveridge, au niveau européen au moins. Et puis je crois que du coup, ça c'est un des messages que donne Naomi Klein dans son dernier bouquin, mais ce qui me semble important, hein, c'est qu'il faut pour ça aussi des mobilisations, il faut de la mobilisation sociale autour de ça, et notamment certainement une alliance entre les syndicats et les associations écologistes, qui aujourd'hui jouent quand même un petit peu trop souvent de manière séparée, les syndicats parce qu'ils défendent l'emploi et qu'ils soupçonnent les écologistes de vouloir trop facilement supprimer de l'emploi. Donc voilà, reformer, il en existe, mais reformer des coalitions, de nouvelles alliances entre syndicats et écologistes autour d'un objectif qui pourrait être donc la qualité des produits, qualité du travail, avec de nouvelles comptabilités macro, comptabilité micro. J'ai un collègue à Dauphine qui a conçu un nouveau système de comptabilité qu'il appelle CARE. C'est très joli parce que je pense que tout cette... Il s'appelle Jacques Richard, parce qu'on peut imaginer que le nouveau paradigme de remplacement, ça serait le paradigme du prendre soin. Hein, ce que nous raconte la sociologue américaine Tronto, qui dit que, ben, il faut prendre soin non seulement des gens avec lesquels on vit, des êtres humains, mais il faut prendre aussi soin du monde. Et donc, voilà, pour prendre soin du monde, il nous faut aussi une nouvelle comptabilité qui va nous montrer comment nous impactons le monde. Et puis, je n'ai pas le temps d'en parler, c'était le thème d'un séminaire, je discutais hier avec des collègues juristes qui proposaient de réfléchir là-dessus. Si on adopte tous ces nouveaux paradigmes, si on refuse, eux, ce qu'ils appellent le paradigme croissantiel, pour mettre un nouveau paradigme écologique à la place, qu'est-ce que ça veut dire pour toutes nos disciplines ? Il faut qu'on revoie considérablement nos sciences, nos disciplines et les axiomatiques de nos disciplines. L'anthropologie et la cosmologie sur laquelle nos disciplines sont installées. Par exemple, l'économie. Hein, l'économie qui continue à raisonner avec un homme rationnel, totalement informé, etc. etc. Donc tout... Voilà, opérer une véritable révision de nos catégories, de nos grilles de lecture et de nos disciplines. Voilà, merci pour votre attention.
Merci beaucoup à Dominique qui réussit le tour de force de nous parler du réel, des outils pour observer le réel et de ce qu'on pourrait faire à la fois pour changer le réel et pour changer ses outils. C'est quand même un changement de paradigme d'ensemble qui nous est proposé. Donc, je ne vais pas commenter moi-même, mais ce n'est pas mon rôle, mais j'ouvre la discussion. Est-ce qu'on pourrait prendre deux ou trois interventions ?
Bien sûr.
On pourrait prendre les interventions par deux ou trois, de façon à ce que la parole a gagné un petit peu de temps, parce que ça permet toujours de gagner un petit peu de temps. Et je vous demande donc de vous nommer et d'être le plus concis possible dans vos interventions. Qui souhaite intervenir ?
Jean-Éric Aubert, je suis un ancien économiste, ancien de l'OCDE et de la Banque mondiale.
Aïe.
Ça commence bien.
Cela étant, j'étais plutôt hétérodoxe et marginal dans l'une et l'autre de ces organisations. Et je m'occupais plutôt de politique de l'innovation. Et ce que vous avez présenté, d'ailleurs, de manière tout à fait remarquable et convaincante, je vous en remercie, c'est une véritable innovation. Ma question est la suivante. Est-ce que vous croyez qu'il est possible de mettre en place le nouveau modèle que vous proposez s'il n'y a pas effectivement, au niveau international, au minimum européen, l'établissement des normes, soit environnementales, soit sociales, qui doivent guider toute cette transformation ? Est-ce que vous pensez que pour un pays comme la France, qui a, à travers l'histoire, toujours voulu jouer les Lumières, pour l'univers tout entier, pensez-vous que c'est possible ? Et dans quelles conditions ? Faut-il arriver à une crise majeure dans ce pays pour que peut-être on fasse l'effort de cette démarche innovatrice ?
Merci. Il y avait une autre personne, voilà, ici.
Marc Duhart, je voulais juste savoir ce que vous pensez, s'il y avait une meilleure répartition des richesses, si ça ne contribuerait pas à une croissance, et en fin de compte, si la croissance n'est pas un leurre, et qu'il faut l'accepter comme dans toutes les courbes économiques, qu'il y a des sommets, des pics et des bas.
Patrick Kernen, je ne suis pas économiste, mais je m'intéresse beaucoup à l'économie, je voyage dans le monde entier, et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir les différences de richesses, la dégradation de l'environnement, j'ai écrit des papiers là-dessus d'ailleurs. J'ai lu aujourd'hui une statistique sidérante. La moitié des. La partie la moins riche du monde, 3,5 milliards d'habitants, a la même richesse que 62 personnes dans le monde.
Oxfam.
C'est sidérant. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Ceci étant, c'est les plus pauvres dans le monde, je pense, seraient très étonnés de vos souhaits de régulation. Parce que qu'est-ce qu'ils ont envie, les plus pauvres du monde ? C'est de faire manger leur famille le soir même. Alors les idées de normes environnementales, normes sociales, etc., ça leur passe au-dessus de la tête. Et on a bien vu à la COP21, beaucoup de promesses de décision d'arrêt d'émissions de gaz à effet de serre vont rester lettre morte. Donc je reste dubitatif sur toutes vos utopies, madame. Même si c'était très très bien présenté, je pense que c'est très très utopiste. Alors quand vous parlez de volontarisme politique, quand on voit qu'en Europe, il y a très peu de gens qui ont la vision, je reste très, très inquiet.
Alors, Dominique.
Bon, bah, je ne vais pas vous rassurer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose tout seul en France s'il ne se passe rien au niveau international ? Non, je crois qu'en effet, on ne peut pas. Mais c'est vrai que quand même, la tentative de Nicolas Sarkozy était bien intéressante. Vraiment, je crois que c'est... Je ne sais pas si toi, tu en sais plus. Est-ce que c'était Jean-Paul Fitoussi qui lui avait suggéré ça ? Je ne crois pas, pourtant. Est-ce que c'était Henri Guénaud ? Mais cette idée de réunir quand même des gens très célèbres avec une grosse notoriété pour critiquer le produit intérieur brut et pour construire autre chose, c'était quand même rudement intelligent. Enfin, nous, par exemple, ça faisait des années avec Gadret, Jeannie Catrissois, qu'on travaillait là-dessus. C'est exactement ce qu'on voulait, quoi. Alors, ça a raté. Mais je pense... Alors, ça a raté parce que ça a toujours raté. C'est-à-dire que pour arriver à mettre en place une nouvelle comptabilité, il faut qu'on se mette d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qui compte. C'est pour ça que nous, je dis nous parce qu'on avait créé un groupe qui s'appelait le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, où c'était un peu un endroit où on militait pour d'autres indicateurs de richesse, et une de nos obsessions, c'était de dire qu'il fallait vraiment toujours essayer d'embarquer les citoyens là-dedans. Pourquoi ? Parce que quand on essaye de discuter sur ce qui compte pour les citoyens et pour une société, c'est quand même mieux de ne pas avoir exclusivement des sommités mondiales en économie. Il faut aussi un peu des vrais gens, quoi. Mais donc, ça a raté. Il me semble que c'était la bonne chose à faire, mais que tant qu'il n'y a pas une espèce de base d'accord sur ce qui importe et ce qui compte, ça ne peut pas marcher. Par exemple, il y a la fameuse question des inégalités. Vous avez des gens qui, donc, dans pas mal d'indicateurs alternatifs, on donne en fait une pondération. On dit que ce n'est pas bien, en gros, quand il y a plus d'inégalités. Vous avez des gens qui disent « Mais attendez, c'est complètement normatif de dire que les inégalités, c'est pas bien. » Donc, on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur un indicateur qui, en effet, se substituerait ou compléterait le produit intérieur brut, parce que, bien sûr, que c'est normatif, ça emporte des décisions très, très fortes. Mais, donc, ils avaient failli se décider pour l'épargne nette ajustée, ce qui était une catastrophe. Il y a eu depuis, toutes les grandes institutions internationales ont sorti des indicateurs alternatifs, que moi, je trouve pires les uns que les autres, parce que, par exemple, vous faites des additions de points de bonheur. Donc, vous tendez le micro, vous dites est-ce que vous êtes satisfait de votre vie, et puis vous cumulez, et puis vous faites ça. Un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Mais... on n'a jamais réussi à dire que ce qui importait finalement, c'est, alors on pourrait dire, l'empreinte écologique ou quelque chose de plus intelligent, l'empreinte carbone ou des choses comme ça, qui vraiment nous montrent les émissions de gaz à effet de serre, enfin, les grandes dégradations sur le patrimoine naturel. Et puis un autre indicateur, en effet, bon, je pense plutôt d'inégalité ou de pauvreté. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'il faudrait en effet absolument... absolument recommencer. Sur la meilleure répartition de la richesse, est-ce que c'est utile ou pas ? C'est bien sûr utile, mais c'est vraiment, je trouve que, Alors, c'est pas non plus deux sujets différents. Mais vous savez qu'à une époque, les grandes batailles, c'était la répartition des gains de productivité. Donc, on disait, on va produire le plus possible. Les syndicats étaient d'accord. Toute l'époque fordiste était d'accord. On va produire le plus possible. Et puis après, on se disputait sur capital-travail. Moi, il me semble que c'est peut-être de ça qu'il faut sortir. C'est-à-dire arrêter de faire toujours plus de gains de productivité pour les répartir entre les deux. En revanche, et je viens à la troisième question, c'est vrai que le point absolument déterminant, c'est même pas Nord, enfin, c'est globalement Nord-Sud. Enfin, c'est développé et peu développé, avec toutes les questions, là, pour le coup, d'inégalité que ça pose, et que vous avez parfaitement raison. On les a tout à fait vus se révéler à la COP21. C'est-à-dire, il y a ceux qui en ont pris plein la figure, à qui on a piqué toutes leurs ressources, qu'on l'a colonisé, etc., etc. Et puis, en plus, on leur a déversé sur la tête toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, en plus, aujourd'hui, on leur dit, ah ben non, vous n'avez pas le droit de vous développer. Donc là, c'est la double peine. Et ils n'ont aucune envie d'entendre ça. Je crois que le vrai sujet, c'est nous là-dedans. C'est-à-dire nous, les pays quand même très développés, est-ce qu'on peut continuer comme ça, ou est-ce que c'est précisément pas à notre tour ? Alors là, moi, j'aime beaucoup ce que dit le pape, sans être d'aucune religion, mais je trouve que ce qu'a dit le pape sur le fait qu'en effet, maintenant, il fallait passer à la décroissance pour les pays occidentaux très développés, ça me semble assez intéressant, parce qu'on ne peut pas demander aux pays peu développés de s'arrêter. Ils ont tout à fait droit, sinon à la même chose que nous, mais au moins un niveau de confort intéressant. Et donc, j'ai bien peur que l'ajustement doive peser sur nous. Et donc, cet effort dont vous dites qu'il est utopique, je crois que de toute façon, si on ne le fait pas de façon anticipée, ça nous reviendra de toute façon sur la tête d'une... Le
tarisme politique dans le monde occidental, il n'y en a pas beaucoup.
Hein. Bien sûr.
Ils sont tous liés à la prochaine échéance électorale.
Oui, je suis bien d'accord.
Même ce soir, l'ancien président de la République que vous avez cité parle à la télévision parce qu'il veut se faire réélire. Alors le volontarisme politique, il est surtout pour eux, pas pour leur peuple ou la planète.
D'où l'importance de l'intervention des citoyens dans tout ceci, et que les citoyens disent qu'ils ne voteront pas pour quelqu'un qui ne prend pas ces sujets au sérieux, par exemple. Ah ben, non mais on en est rendu à ça. Ou qu'il y ait des mouvements suffisamment puissants pour qu'on soit obligé d'en tenir compte. Moi, on finit par ne plus croire en effet qu'à cela. Parce que moi, je ne crois pas du tout aux histoires de chambres. Vous savez, il y a des gens qui proposent une chambre du long terme avec des sages qui penseraient au long terme, etc. Je ne crois pas tellement à ça. En revanche, en effet, des mouvements sociaux. Mais on voit bien qu'il faut une jonction entre les syndicats ou les mouvements classiques traditionnels et les mouvements écologistes. C'est ça qui est très difficile à faire. Et qui revendiquerait, en effet, qui aurait d'autres mots d'ordre que les mots traditionnels.
On peut arriver à l'anarchie. C'est pas contrôlé. C'est dangereux.
D'où mon souhait de volontarisme et de coordination, en effet, par un État fort, oui. Par un État capable d'entendre la voix des citoyens et de mettre en place cette planification, cette coordination. Je pense que si... Oui, ben... Bah, oui.
Tout est décidé par une centaine de personnes et eux peuvent peut-être montrer la voie.
Oui, mais ça serait... Mais ça serait formidable, précisément, qu'on arrive, nous aussi, à le faire grâce, tout en restant démocrate.
Bonjour, Florian Guérit. Moi, ma question portait surtout sur... déjà, dans le titre de votre conférence, vous prenez acte du fait que la croissance aura une fin, ou que, mais une société post-croissance, donc vous... Est-ce que c'est vraiment réaliste? Parce que, comme vous l'avez dit, les économistes qui parlent de ça sont assez isolés et marginaux. La deuxième, c'est pourquoi y aurait-il besoin d'une absence de croissance pour réaliser les améliorations sociales et environnementales qui vous tiennent à cœur, puisque finalement, enfin, si on arrive à les faire avec de la croissance économique, pourquoi pas? Et notamment, pourquoi pas retourner l'argument de la croissance contre la plupart de ceux qui en sont les grands tenants, disons, et en leur disant, bah, si vous continuez comme ça, il n'y aura pas de croissance dans 20 ans, donc autant avoir du progrès social et environnemental maintenant, si vous voulez avoir de la croissance dans... Donc pourquoi vous voulez supprimer le débat autour de la croissance? Alors ça fait une troisième question maintenant. Et ensuite, je pense que c'est tout à fait réalisable, en fait, les transitions sociales et environnementales que vous proposez, ou arriver avec le même objectif du moins, sans avoir à supprimer la croissance. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux notamment, on consomme plus des biens, on consomme des services. On consomme plus des voitures, on consomme du transport. À l'avenir, on consommera Uber ou une autre entreprise et des voitures autonomes qui économiseront ça. Et puis aujourd'hui, on consomme quoi ? Enfin, regardez les plus grandes capitalisations de la planète. C'est que de l'intangible, c'est que des services. Et on consomme des réseaux sociaux, on consomme... avant, c'était Exxon, de l'énergie. Aujourd'hui, c'est Facebook, c'est Google, c'est Uber, enfin, toutes les sociétés. Et dernièrement, je crois qu'il y a eu un sondage qui a été fait qui disait que la génération, qui est la mienne, préférait payer et consommer beaucoup plus d'expériences et de services que de biens matériels. Et c'est parce qu'il y a justement cette prise de conscience. Alors, vous avez sûrement participé, il y a énormément de gens qui ont participé à cette prise de conscience, mais je ne pense pas que ce soit contradictoire avec la croissance, en fait. Et pareil pour l'énergie. Aujourd'hui, on voit des milliards et des milliards qui sont mis dans la transition énergétique. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent, il y aura du retour sur investissement, premièrement. Et ensuite, et voilà, à partir du moment où il y aura un retour sur investissement, l'argent sera mis et la transition sera faite. Je ne vois pas en fait de contradiction, comme vous l'avez souligné, avec la croissance économique.
Merci. Si vous pouvez passer, voilà. Je vous remercie.
Bon, moi, je vous en amener un petit peu plus loin. Je pense que vous connaissez un petit royaume qui s'appelle le Bhoutan. Bon, je suis journaliste, moi, je suis un spécialiste du Bhoutan. J'y ai été plusieurs fois depuis 40 ans. J'ai vu ce phénomène, cette réflexion menée il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans que le quatrième roi avait réfléchi par provocation un peu à des journalistes qui lui posaient la question du PIB en lui disant « Mais vous êtes sur l'échelle des nations, vous avez un produit intérieur brut qui ne vous permet pas effectivement de figurer ou de vous poser des questions ». Et le quatrième roi avait répondu « Mais moi, ce n'est pas mon problème, c'est d'essayer de faire en sorte que notre peuple soit heureux ». À partir de là, ce qui a été une provocation, il y a vraiment une vraie réflexion depuis 30 ans qui est menée. Il y a un haut comité, on réfléchit, il y a 85 mesures. Stiglitz, dont vous parliez, a été plusieurs fois là-bas, que j'ai rencontré. Fitoussi y a été, Attali y a été, tout le monde y va un petit peu. Quand il y a eu le rapport qu'a commandé Sarkozy, on ne sait pas pourquoi il l'a commandé, on voit qu'il a servi à pas grand-chose, mais je veux dire, il s'était aussi inspiré de tout ça. Alors je voulais simplement savoir un petit peu, vous, quel regard vous portiez par rapport à tout ça, et quelle était votre opinion ?
Pour ma part, je ne vous trouve pas du tout utopique. Je pense qu'il est nécessaire d'être utopique. C'est dommage que le monsieur soit parti parce qu'il avait l'air d'avoir quelque chose contre l'anarchie, qui est quelque chose qui est très utopique, mais qui n'est pas dangereux. Je ne sais pas, il n'y a jamais eu de société en faillite à cause de l'anarchie. C'est plutôt le contraire qui est arrivé en général. Il y a une chose qui m'a beaucoup... qui m'a choqué... Je veux dire carrément, pas beaucoup, mais vous allez peut-être vous en expliquer. Vous avez dit assez textuellement que la reconversion écologique est une opportunité pour la question sociale. C'est bien cela ?
Oui.
Bon. Alors, premièrement, il y a un petit détail de formulation qui me gêne, c'est le mot « opportunité », qui vient de l'anglais, comme chacun sait, qui est l'occasion, on va dire, l'occasion qui fait le larron. Mais je préférerais que ce soit la question sociale qui soit la possibilité de faire une reconversion écologique. Parce que il me semble qu'on parle ici et là de société, mais il me semble que le bien-être dans lequel nous vivons, nous, ici, aujourd'hui, est dû à ce qu'on peut appeler tout de même des luttes de classe, qui ont été plus ou moins digérées, arrangées à la sauce occidentale. Mais, d'une manière générale, on disait même, moi je ne suis pas économiste, mais on disait même qu'il y avait une meilleure redistribution dans l'Occident qu'en Russie soviétique. Par conséquent, la question de la redistribution comme résultat des luttes, on va dire, de manière très, très générale, me semble tout de même quelque chose sur lequel aujourd'hui on fait complètement l'impasse. C'est un tabou. Est-ce que c'est un tabou pour vous ? Est-ce que c'est un, est-ce que, et donc, je reviens à ma première partie de ma question. Est-ce que le fonctionnement, le bon fonctionnement de la société, c'est-à-dire l'égalité, en somme, la redistribution, n'est pas aussi un moyen? Parce que la décroissance, personnellement, je suis venu ici pour vous en entendre parler, bien évidemment, ça me semble l'évidence même, personnellement. Mais est-ce que, justement, cette reconversion, cette réflexion générale sur l'écologie ne doit pas venir de la société dans ses contradictions?
Merci. Alors. Merci beaucoup. Alors, sur la première question, vous me dites que je prends acte du fait que la croissance aura une fin. Non. Non, pas du tout. Enfin, bien malin qui saurait dire si on continuera à avoir de la croissance ou pas. J'en sais rien du tout. Je pense que personne n'en sait rien. Donc, je ne prends pas du tout acte du fait que la croissance aura une fin. Simplement, je m'interroge sur la question de savoir si c'est souhaitable ou pas qu'elle revienne, puisqu'on implore son retour. Est-ce que c'est souhaitable qu'elle revienne? Et je dirais à quel rythme, à quel taux, d'une certaine manière. Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a en effet un certain nombre de personnes qui disent, bon, il faut qu'on rebâtisse entièrement tout notre système énergétique. C'est énorme, il faut qu'on arrête le pétrole et qu'on mette du renouvelable à la place, et puis il faut qu'on rénove thermiquement tous nos bâtiments, qu'on construise des transports en commun, qu'on fasse la voiture électrique, qu'on verdisse tous les processus industriels. Absolument énorme. Donc pour ça, ça va demander des investissements gigantesques. Donc la vraie contradiction, c'est comment est-ce qu'on fait ces investissements gigantesques? Alors on parle de 2% du PIB, mais on peut penser que ça serait quand même sûrement plus. Comment est-ce qu'on finance ces investissements gigantesques? Est-ce qu'il ne faut pas de la croissance pour financer ces investissements? Ça, c'est une question compliquée. Et vous, ce que vous dites, c'est on y va, on pourrait y aller, et on pourrait se dire, tiens, en 20 ans, on pousse la croissance à mort, mais alors elle est utilisée exclusivement, le temps étant compté, à rebâtir tout notre système. Bon, je ne suis pas sûre qu'on aurait cette sagesse. Je ne sais pas si on pourrait avoir cette croissance, parce que c'est quand même compliqué. Deux, est-ce qu'on aurait la sagesse, en effet, de mettre tous les moyens pour rebâtir notre système, donc dans les énergies renouvelables, etc., etc. Et trois, est-ce qu'on ne peut pas le financer autrement? Alors là-dessus, il y a des tas de rapports que vous devez connaître aussi bien que moi, mais après tout, ce qu'est en train de faire la BCE à faire du quantitative easing et faire finalement de la création monétaire non fléchée, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que cette création monétaire, eh ben, on la met sur ces investissements verts pour assurer la transition écologique, mais qu'on continue à raisonner comme je vous le propose, c'est-à-dire on ne cherche pas d'abord à faire de la croissance et ensuite à résoudre les problèmes, on cherche à résoudre les problèmes en se disant peut-être il y aura finalement de la croissance ou pas, mais que ce n'est pas notre sujet. Vous voyez, c'est ça que j'essaye de dire, c'est que arrêtons d'être focalisés là-dessus, c'est, d'une certaine manière, ce n'est pas le sujet. Je ne dis que ça. Et alors là où je suis en grand désaccord avec vous, c'est sur, vous avez prononcé le terme de « intangible », vous avez l'impression qu'on a aujourd'hui une consommation complètement dématérialisée, mais notre consommation de matière n'a jamais été aussi élevée. Jamais, 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 jamais. Donc on a l'illusion avec nos ordinateurs, et on s'envoie des mails et tout ça, que c'est dans le ciel, mais pas du tout. La consommation de matière est énorme, et notamment de matières rares, de matières qui sont en train de disparaître. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment s'enlever ça de l'esprit, et qu'on a un certain nombre, il y a un certain nombre de bouquins qui sont parus, il y a le bouquin de Bardi, il y a le bouquin de Biwix, sur ces terres rares et ressources rares et minerais, dont il reste plus grand-chose et dont on ne trouvera pas nécessairement les substituts. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'il ne faut pas penser qu'on est dans la dématérialisation totale. Alors ensuite, le Bhoutan. J'ai une bonne collègue économiste, Isabelle Kassirs, qui a beaucoup travaillé aussi au Bhoutan, donc on a beaucoup travaillé aussi sur ce sujet. Ben, je trouve ça intéressant. Je ne trouve pas hyper différent, l'indicateur qu'ils ont, le BNB, la manière dont il est construit, c'est pas hyper différent d'autres indicateurs. L'indicateur à l'époque avait construit Osberg et Sharp en 2002, c'est-à-dire on prend en effet un certain nombre de compartiments. Ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils mélangent le subjectif et l'objectif. Moi, vous voyez, il y a des indicateurs où on fait juste, on demande aux gens s'ils sont satisfaits, et puis on fait des... Voilà, on fait des tas avec le bonheur subjectif, quoi. Ce qui est intéressant dans le Bhoutan, c'est qu'ils ont quand même une dimension un peu holiste, un peu collective. Donc, ils regardent, par exemple, comment les gens sont soignés, l'accession à des biens prioritaires, etc. Donc, je trouve ça intéressant, ce qui se passe au Bhoutan. Je ne connais pas assez bien, en revanche, le régime politique, mais la démarche, je la trouve intéressante. Je ne sais pas si on a besoin de s'embarrasser de trucs aussi compliqués, voilà, avec des pondérations, mais pourquoi pas. Et puis, sur la troisième question, peut-être je me suis mal exprimée, ce que je voulais dire, c'est que trop souvent, on oppose la question sociale et la question écologique. Et on dit, ah mais la question écologique, elle est contradictoire avec la question sociale, parce que finalement, si on la prend en considération, ça va nous faire perdre des emplois, et ça va faire une augmentation des prix, donc c'est pas bon, c'est pas bien. Si je parle d'opportunité, c'est pour dire, d'une autre manière, que pour moi, ça n'est pas du tout contradictoire. Au contraire. Au contraire, aller dans la direction de la reconversion écologique, ça va nous aider, certainement, à avoir plus d'emplois, à changer le travail et à... Et bien sûr que la préoccupation des inégalités, elle est pour moi absolument centrale, que ce soit entre pays développés et moins développés, à l'intérieur de nos sociétés. Et je pense justement que si on avait par exemple deux gros indicateurs, un indicateur sur le patrimoine naturel et un indicateur plus de cohésion sociale, bah, la question des inégalités, elle est absolument centrale, à la fois en ce qui concerne les revenus, les conditions de travail. Vous voyez, un indicateur d'égalité bien large qui prendrait plusieurs dimensions en compte. Donc voilà, pour vous rassurer, pour moi, c'est absolument central. Et je suis aussi bien intéressée, je suis beaucoup moins spécialiste, mais bien intéressée par tous les travaux qui sont faits en ce moment sur la justice climatique, justement, c'est-à-dire qui nous montrent que ceux qui vont être les plus impactés par la menace climatique, c'est bien sûr les plus pauvres. Travailler cette question-là, travailler la question de l'écologie, c'est immédiatement travailler sur la question des inégalités.
Bien, écoutez, j'avais promis au directeur de la Fondation de terminer à 20h30, donc je pense qu'il ne nous en voudra pas de terminer à 20h31. Soyez remerciés, Dominique, au nom, je crois, de tous. On part tous un peu frustrés, on aimerait continuer à discuter, mais c'est le signe que c'était une bonne réunion. Quand on a des questions qui ne sont pas réglées, et donc peut-être que dans un an ou deux, on aura d'autres occasions de discuter à nouveau avec Dominique dans cette salle. Mais il y aura d'autres occasions ailleurs aussi.
Il faut que je fasse maintenant un petit moment de pub. Merci. Si vous êtes frustré, un tout petit livre, La mystique de la croissance, comment s'en libérer, chez Champflammarion. Voilà.
Très bien.
Merci de votre participation.